Alors, la gloire au Seigneur. Bonjour frères et sœurs. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et on va poursuivre sur ce thème de la louange et de l'adoration. Et je vais vous inviter à lire un verset dans le psaume 138 et au verset 1er. Psaume 138 et le verset 1er. Le thème de ce partage ce matin, c'est comment devons-nous adorer Dieu ? Alors on a vu dans les différents partages qu'on a eus que Dieu nous demande de l'adorer. On a vu que c'est une nécessité quand on est croyant de le faire. Une chose est de savoir qu'il faut adorer, autre chose est d'adorer véritablement le Seigneur. Et il ne suffit pas de le savoir ou de le lire dans la parole, encore faut-il le mettre en pratique. Et adorer n'est pas encore suffisant parce qu'il y a différentes manières d'adorer et nous ce que nous recherchons c'est la manière d'adorer qui plaît au Seigneur. On a parlé de cet exemple de Abel et Caïn, si vous vous rappelez, c'était deux personnes qui voulaient adorer le Seigneur. Donc ils avaient compris que Dieu voulait qu'on l'adore, ils voulaient apporter leur adoration à Dieu. Jusque-là, tout va bien, mais c'est dans la manière d'apporter leur adoration que Dieu a approuvé l'adoration d'Abel et Dieu n'a pas approuvé l'adoration de Caïn. De l'extérieur, on aurait dit ce sont deux personnes qui viennent adorer Dieu, mais en réalité, il y en a une qui était approuvée de Dieu et pas l'autre. Donc on veut aussi rechercher la manière qui plaît au Seigneur. Alors pour cela, on va voir deux aspects dans comment adorer Dieu. Tout d'abord, quelle doit être notre attitude intérieure et ensuite, quelle doit être notre attitude extérieure. Concernant l'attitude intérieure, donc psaume 138 et le verset 1. Il est question ici d'adorer de tout notre cœur. Psaume 138, verset 1. « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges, en présence de Dieu. » Et ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est écrit dans Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Que ce soit dans l'Ancien, le Nouveau Testament, il est question de louer Dieu de tout notre cœur. Et ça, c'est l'attitude intérieure. On pourrait parler d'une attitude de cœur. Qu'est-ce que le cœur ? Le cœur, dans la parole de Dieu, c'est le contrôle. Le centre de contrôle des sentiments, de la volonté, de la pensée, c'est donc le centre de contrôle de la personne intérieure. Si bien que Dieu ne veut pas qu'on l'adore en surface, mais il veut qu'on l'adore de tout notre être, de tout ce qui est profond en nous, de toute notre âme. Et c'est ça que représente le cœur, c'est la personne intérieure. Maintenant, comment est notre cœur ce matin ? Vous savez que quand on étudie ce terme, le cœur, il y a plusieurs adjectifs pour le qualifier. Par exemple, le cœur peut être rebelle, quelqu'un qui est rebelle à Dieu et qui a reçu pourtant un ordre du Seigneur de faire ceci, faire cela. On peut penser à Jonas, le prophète. Ben son cœur était rebelle à Dieu parce qu'il avait reçu l'ordre d'aller dans une direction et il avait choisi une autre direction. Donc notre cœur peut être rebelle, désobéissant. Notre cœur peut être, un autre terme qu'on trouve dans les Écritures, un cœur endurci, un cœur qui ne veut pas se laisser façonner par Dieu. Notre cœur peut être sourd aussi. On ne veut pas entendre la voix de Dieu. Plusieurs qualificatifs. Quel est l'état de notre cœur ce matin ? Est-ce que nous venons dans sa maison pour le louer et l'adorer de tout notre cœur, mais avec un cœur pur, avec un cœur bien disposé ? C'est ça qui va compter pour le Seigneur. David qui l'écrit au psaume 24, verset 3, il dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur. » On retrouve cette importance pour se présenter dans la montagne sainte, c'est-à-dire dans l'adoration devant le Seigneur, et bien de venir de tout notre cœur avec un cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et ne jure point pour tromper. Maintenant, comment avoir un cœur pur ? Puisque nous voyons que Dieu, pour le louer et l'adorer, on doit le faire de tout notre cœur, mais ça doit être d'un cœur pur. Mais pour avoir ce cœur pur, on ne peut pas le créer nous-mêmes. Mais par contre, le Seigneur peut créer en nous un cœur pur. David, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, à un moment donné, il s'est éloigné du Seigneur, il a voulu revenir à Dieu, c'est un psaume de repentance, et il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Si bien que, avant de venir dans la présence de Dieu, on peut demander pardon au Seigneur. « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes manquements, mon caractère, telle et telle chose dans ma vie qui ne va pas, je te demande pardon. Seigneur, aie pitié de moi, crée en moi un cœur pur. » Parce que sans ce cœur pur, David savait très bien qu'il ne pourrait pas louer le Seigneur comme il convient et il en avait besoin dans sa vie. Est-ce que nous voulons aussi, frères et sœurs, avoir ce cœur pur, mais ce cœur pur qui vient de Dieu ? Crée en moi un cœur pur. Alors on doit se préparer, voyez, ça nous parle de la préparation avant d'entrer dans la présence de Dieu, de se placer dans la prière, de demander au Seigneur de nous changer, de nous transformer pour avoir ce cœur pur. Un autre auteur, c'est dans le Nouveau Testament, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous dit qu'on s'approche de Dieu, exactement, on s'approche du sanctuaire, on doit avoir un cœur sincère, dans Hébreux 10, 22. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Cœur sincère, cœur purifié, voilà comment Dieu veut notre cœur. Alors le terme grec, cœur sincère, ça signifie un cœur droit, vrai, qui marche dans la vérité. Voyez que devant Dieu, on ne peut pas jouer les apparences, on ne peut pas le tromper. Quelquefois, on peut donner un bon visage ou une bonne... On peut faire un sourire et avoir des pensées contre quelqu'un. Et la personne ne le saura pas. Mais Dieu, lui, on ne peut pas venir avec lui en le louant, en l'adorant, mais avec un cœur sale, un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur éloigné de lui. Parce que Jésus, notre Dieu, détecte l'hypocrisie. Vous savez que quand Jésus était devant les pharisiens, il ressentait si c'était vrai ce qu'il disait ou si ce n'était pas vrai. Il voyait leur cœur. De même que quand on vient le louer, l'adorer, Jésus voit notre cœur. Est-ce que notre cœur est entièrement pour lui ? Ça, c'est le premier donc, aspect, l'attitude intérieure. On veut le louer de tout notre cœur. Deuxième aspect, on peut aller au psaume 42 et au verset 2. Psaume 42, verset 2, c'est la soif de Dieu. Psaume 42, verset 2, quelle doit être notre attitude intérieure quand on loue ? Ben, on doit avoir soif de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Est-ce que nous aussi, ce matin, nous avons ce soupir après la présence de Dieu, ce désir d'être en contact avec le Seigneur ? Vous savez, ce terme soupirer concernant la biche, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. C'est un terme qui veut dire littéralement attendre, haleter, soupirer après, désirer ardemment. Voilà quelle doit être notre attitude quand nous venons dans la présence de Dieu. C'est comme un cri. C'est la version Darby qui traduit comme brame le cerf après les courants d'eau. Ainsi mon âme crie après toi. Donc on peut le traduire comme un cri, c'est un cri du cœur. Pour dire « Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi, je te désire dans ma vie. » Voyez, cette biche ou ce cerf, il brame, il crie, mais c'est un cri parce qu'il a soif, parce qu'il veut. Il exprime, autrement dit, ce qu'il a au-dedans de lui. C'est ça ce que nous voulons faire quand nous venons dans sa présence. Alors, je pose la question, mais de quoi avons-nous soif ? Est-ce qu'on a vraiment soif de Dieu ou pas ? Parce que dans ce monde, il y a toutes sortes de soifs. Certains, ils ont soif, ils cherchent l'amour. Certains, ils cherchent l'argent, ils cherchent les richesses. C'est une soif, la soif du succès. Quelle est notre soif ce matin ? Est-ce que nous avons vraiment soif de Dieu ? Est-ce que Dieu est vraiment sur le trône de notre cœur ? Ça va être déterminant aussi pour notre louange, pour notre adoration. Parce que si je n'ai pas soif, je vais passer à côté. Il y a un proverbe qui dit, qu'on dit souvent, ce n'est pas un proverbe qui est dans la Bible, proverbe qui dit, on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. On ne peut pas le forcer à boire. Et c'est vrai pour les hommes aussi. On ne peut pas nous forcer si on n'a pas envie d'aller plus loin avec Dieu. Personne ne peut être forcé. Donc notre soif, elle est personnelle. Peut-être quelqu'un ce matin n'a pas soif. Il est venu dans ce lieu, il n'a pas soif. Il n'a pas envie de louer Dieu. Donc il ne va pas s'approcher davantage de Dieu. Son attitude intérieure, si vous voulez, est bloquée. Il a besoin d'en être libéré, besoin de s'approcher de Dieu avec soif. Mais peut-être quelqu'un est venu avec soif. Et je dirais même qu'au milieu de nous, certains ont soif et d'autres ont encore plus soif. Nous n'avons pas tous la même soif. Mais nous pouvons toujours avoir davantage soif de Dieu. Ça dépend de nous. Et regardez bien la Bible, vous verrez, en lisant notamment le Nouveau Testament, que plus on a soif, plus on va avancer avec le Seigneur. Par exemple, lorsque Pierre dit, il dit aux chrétiens, désirez le lait spirituel et pur, désirez-le, ayez soif de la parole de Dieu, afin que vous croissiez. Ainsi, Pierre nous montre que ceux qui ont soif et ceux qui désirent et ceux qui se laissent remplir du Saint-Esprit, ils vont croître plus vite, ils vont aller plus loin que les autres. Aussi, un peu plus loin, Paul écrit dans une autre épître, il écrit aux chrétiens, il dit « Aspirez aux dons spirituels. Ne méprisez pas les prophéties. Aspirez aux dons spirituels. » Ça veut dire « Ayez soif des dons spirituels, de les exercer, de les rechercher. » Et ceux qui vont avoir cette soif-là, ils vont les rechercher, ils vont s'y attendre et ils vont les recevoir, ils vont les exercer. Donc plus nous allons avoir soif, plus nous allons être utilisés par Dieu et plus nous allons aller loin aussi dans la louange. Je veux le louer de tout mon cœur, ça c'était la première chose. Je veux avoir la soif de Dieu quand je viens dans sa présence, parce que je m'attends à lui, j'ai besoin de lui. Je veux le louer avec crainte. Troisième verset dans Psaume 5, verset 7. Psaume 5, verset 7. Tu fais périr les menteurs. Psaume 5. Je pense que la référence est fausse. Alors j'ai noté le verset, c'est pas la bonne référence, mais le verset dit « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais dans ta maison et je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Donc il est question ici, c'est le verset combien ? Ah ben c'est le 8, alors je me suis trompé. Voilà. Donc c'est bien le psaume 5, mais c'est le verset 8. « Mais moi, je vais dans, par ta grande miséricorde, je vais dans ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Et notez bien qu'il est dit « avec crainte ». Qu'est-ce que ça veut dire avec crainte ? Bien, avec un profond respect pour la présence de Dieu. Où en est-on de notre crainte de Dieu ? Est-ce que nous respectons vraiment le Seigneur ? Quelquefois, on peut se le demander avec la légèreté que nous pouvons avoir quand nous venons dans la maison de Dieu, quelquefois des propos qui sont déplacés, qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, que nous tenons avant même de venir nous présenter pour louer le Seigneur. Bien, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Nous n'avons pas cette crainte lorsque nous réagissons ainsi. Moi, quand il est dit « Je vais dans ta maison, je vais dans la maison de Dieu, je vais au rassemblement des croyants, mais j'y vais avec crainte, avec respect. Et je ne veux pas avoir de légèreté, ni dans mes pensées, ni dans mon langage, mais je crains, le Seigneur est au milieu de nous ce matin. » Amen. Le Seigneur est au milieu de nous. Est-ce que nous avons cette crainte de Dieu ? Quelquefois, certains sont là dans le culte, mais ils ont l'esprit ailleurs. La crainte de Dieu, où est-elle ? Ils ont l'esprit ailleurs, ou alors ils se préoccupent, est-ce qu'on m'a téléphoné ? Je regarde, ou alors je viens mâcher mon chewing-gum. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu ? Est-ce que je peux louer avec ça ? Ce n'est pas possible. La crainte de Dieu, c'est autre chose. On le ressent bien, il nous faut avoir la crainte de Dieu dans notre cœur, parce que nous ne venons pas n'importe comment dans la maison de Dieu. On ne vient pas de n'importe quelle tenue non plus. On respecte Dieu, on s'habille de manière à l'honorer, mais aussi on vient dans notre état d'esprit pour louer le Seigneur. Et si je ne viens pas dans cet état d'esprit, je n'ai pas la crainte de Dieu. Où en est la crainte de Dieu dans ma vie ? Dernièrement, un frère me disait, c'est notre frère Gilbert qui s'occupe de la Sainte-Seine, il me dit, oui, mais frère, le matin... Pour désigner les frères à la Sainte-Seine, c'est de plus en plus difficile parce que les frères arrivent de plus en plus en retard. Mais où est la crainte de Dieu ? Est-ce que quand on sert le Seigneur, on n'est pas capable d'arriver à l'heure dans la maison de Dieu ? Est-ce que c'est trop demandé ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on prend Dieu pour un copain et puis on fait n'importe quoi ? Est-ce qu'on est sérieux avec les choses de Dieu ? Ou est-ce qu'on considère que c'est vain et que finalement, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, ça n'a pas d'importance ? Bien, moi, je vais vous dire une chose. Personnellement, j'ai la crainte de Dieu, je respecte Dieu et je n'imagine pas servir Dieu en arrivant n'importe quand. Pour ma part, ça c'est moi personnellement. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Et moi je pose la question aux frères qui arrivent comme ça, 10h, 10h15, pour servir le Seigneur dans sa maison. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans votre cœur ? Est-ce que nous respectons le Seigneur ou est-ce que nous considérons que tout ça, ça n'a pas d'importance, qu'on arrive à l'heure, qu'on arrive en retard ? C'est pas grave. C'est pas sérieux. Est-ce qu'on a la crainte de Dieu ? Moi, je veux placer cela dans votre cœur parce que quand on vient servir le Seigneur, vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous. Il peut choisir qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais nous, si Dieu nous fait la grâce de nous utiliser, si Dieu nous fait cette grâce-là, on doit être sérieux avec les choses de Dieu et pas mettre ça de côté, pas passer ça outre. D'ailleurs, c'est dit dans l'Écriture, dans Malachie, chapitre 1, verset 6, « Si je suis père, dit Dieu, où est l'honneur qui m'est dû ? Où est l'honneur ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ?» Alors, frères et sœurs, soyons sérieux. ne mettons pas Dieu à la deuxième place. Il peut y avoir des fois quelques exceptions, on peut le comprendre, quelqu'un qui a un empêchement. Mais quand c'est tous les dimanches, et qu'on veut servir dans la maison de Dieu, moi je dis qu'il y a un problème. Et qu'il faut se ressaisir et dire, Seigneur, comme dit ce texte, je viens dans ta maison, mais avec une sainte crainte du Seigneur, alors je vais venir avec empressement, et dès que j'arrive, je me tiens dans la prière. Comment on peut imaginer servir le Seigneur dans l'église si on ne vient pas dans la prière ? À 9h30, prier avec les frères et sœurs, et puis là, on arrive au dernier moment et on sert comme ça. Non, ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est autre chose, on le ressent bien. Le Seigneur nous le montre, c'est à nous de le mettre en pratique, et on veut le faire chacun pour notre part. On veut le faire aussi, quatrièmement, avec détermination. Psaume 71, verset 14. Psaume 71, verset 14, avec détermination. Et moi, dit le psalmiste, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ça exprime le désir de David. David, c'était une des seules personnes de l'Ancien Testament dont la vie a été autant marquée par la louange et l'adoration. Et il écrit ici, et pourtant on peut dire qu'il louait beaucoup le Seigneur, et qu'il passait du temps à composer des psaumes. Mais il dit, mais moi je te louerai de plus en plus. Vous voyez la vision qu'il a ? Est-ce que c'est dans notre cœur ce matin ? Ou est-ce qu'on se dit, ben voilà, j'ai loué, ça y est, j'ai fait un chant ou deux, ben ça y est, j'arrête. Non, on veut le louer de plus en plus, de mieux en mieux, pour sa gloire. Il avait décidé de louer, quelles que soient les circonstances. Il ne dit pas, Seigneur, je te louerai demain si ça va bien pour moi, et puis si ça ne va pas, je reste à la maison. Je ne viendrai pas te rendre gloire dans ton sanctuaire. Non, il avait dit, je te louerai de plus en plus. C'est une détermination. Est-ce que dans notre cœur, nous avons ce désir de passer du temps dans la louange, dans la prière, à la maison, dans la présence de Dieu, avec les frères et sœurs? C'est une question de décision, de détermination. Ou est-ce qu'on dit, ben moi, ça y est, j'ai eu mon dimanche matin, je suis repu jusqu'au dimanche suivant, et puis on ne loue pas le Seigneur entre deux, et tous les jours de la semaine, on met Dieu de côté? Bien non. David nous montre que nous devons le louer avec détermination. Cinquièmement, nous devons le louer en nous laissant inspirer par Dieu. Ésaïe, chapitre 57, verset 19. Ésaïe 57, 19 nous dit, je mettrai, c'est Dieu qui parle, je mettrai la louange sur les lèvres. Dieu nous inspire dans nos louanges. Psaume 45, verset 2, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Donc on voit que dans notre cœur, Dieu y met la louange, l'adoration pour sa gloire. Il nous inspire pour le louer. Alors certains me disent parfois, oui, mais moi je ne sais pas quoi dire pour louer le Seigneur. Ben, on peut commencer par lui dire merci. Merci Seigneur déjà pour le souffle que tu me donnes, pour la respiration. Merci pour cette journée. Alors c'est vrai, peut-être il pleut ou peut-être il fait froid. Eh bien Seigneur, merci quand même. Le Seigneur est bon, il prend soin de nous. Puis vous pouvez vous inspirer des psaumes. Quand on a du mal à prier, ce que je conseille en général, c'est de prendre le support de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous inspire. Prenez un psaume, par exemple le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et on commence à reconnaître que Dieu veille sur nous, qu'il prend soin de nous. Seigneur, tu es mon berger. Tu es celui qui pourvoit mes besoins. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Je ne crains rien parce que tu veilles sur ma vie. Et vous pouvez vous inspirer de chaque verset du psaume et ainsi de le louer à chaque fois, voyez, et ainsi méditer la parole tout en le louant au travers de la parole de Dieu. Et puis après, vous vous laissez conduire par l'Esprit. On est quand même dans la prière, on est dans le recueillement et on dit, Seigneur, je veux te louer, t'adorer. Puis on laisse les mots que Dieu met dans notre cœur. On peut le louer en langue aussi, le louer en esprit. Et c'est ainsi que notre cœur est rafraîchi. La louange, donc, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose de libre, c'est quelque chose qui vient du cœur. Mais on doit se laisser inspirer par Dieu. Sixièmement, on doit revêtir le vêtement de louange. C'est un texte qui a été lu lors de la Sainte Cène, Ésaïe 61, verset 3, où il est dit que Je veux accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc il y a dans ce texte à la fois le plan du diable pour notre vie qui est d'être dans la cendre, d'être dans le deuil, d'être abattu. Ça, c'est le plan de l'adversaire. Il ne veut pas que vous louiez le Seigneur. Et chaque fois qu'on se rassemble ou chez vous et que vous voulez prier, louer le Seigneur, sachez que nous avons un ennemi qui, lui, il ne veut surtout pas qu'un enfant de Dieu loue le Seigneur. Donc pour lui, il va vous décourager, il va vous montrer les difficultés, il va vous dire « Mais regarde, ça ne sert à rien que tu loues, tu es tellement abattu, Dieu n'est pas intervenu dans ta vie. » Et si vous écoutez cette voix, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas louer le Seigneur. Vous allez vous plaindre et vous allez vous laisser, on va se laisser contaminer. Tandis que le plan de Dieu, dans le même texte, dit Dieu a prévu pour nous un diadème, de la joie et la louange, un vêtement de louange. Voilà le plan de Dieu. Ça, c'est autre chose. Et soit je vais me soumettre à ce que l'ennemi veut pour ma vie, soit je vais me soumettre à ce que Dieu veut pour ma vie. Notez bien que ces choses nous sont données par Dieu. Que ce soit le diadème, il nous est donné par Dieu. La joie, elle vient d'en haut. Et le vêtement de louange, c'est Dieu qui nous le donne. Donc, tout nous vient de Dieu. Et quand notre esprit est abattu, peut-être on n'a pas envie de louer le Seigneur. C'est le cas de peut-être quelqu'un ce matin. Vous êtes venu dans la maison de Dieu, mais vous n'avez pas le cœur à louer. Vous n'avez pas envie de louer le Seigneur. Mais mettez ce vêtement de louange. Recevez le vêtement de louange de Dieu. Et à ce moment-là, laissez-vous inspirer. Et à ce moment-là, vos cœurs vont éclater en louange. Parce que ce que Dieu veut pour notre vie, ce n'est pas les plaintes et les gémissements, mais c'est une vie de louange et d'adoration. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Une vie de louange et d'adoration. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors, je veux revêtir ce vêtement de louange. David, à un moment donné, il dit à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Il donne une injonction à son âme. Son âme n'avait peut-être pas le désir à ce moment-là, il était peut-être abattu intérieurement, mais il a voulu revêtir ce vêtement donné par Dieu. Eh bien, tu commences à bénir, tu commences à louer le Seigneur en langue, en esprit, de tout ton cœur, et ainsi tu revêts ce vêtement de louange, et ensuite on éclate en louange. Alors, ça c'était l'attitude intérieure, on a vu tous ces aspects. Maintenant, j'aimerais parler de l'attitude extérieure. Comment la louange se manifeste à l'extérieur, c'est-à-dire les gestes. Par exemple, on a parlé, on ne va pas revenir dessus, on a quelques éléments que je voulais rappeler dans le vocabulaire de la louange. Il y a quelques temps, on a parlé des différents termes dans la parole, notamment le mot « adorer ». Et on a expliqué que le mot « adorer », dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, signifie aussi « se prosterner ». Donc se prosterner, c'est se mettre à genoux devant Dieu. Voilà une attitude extérieure dans laquelle on peut adorer le Seigneur. Se mettre à genoux et l'adorer. Donc on ne revient pas dessus, on a parlé de pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie, on le voit que ce soit les anges, que ce soit sur la terre, nous sommes invités à exprimer notre joie par des cris d'allégresse, des cris de victoire. Donc tout ça, on l'a étudié. On a parlé du chant. Bien sûr, ça aussi, c'est une manifestation à l'extérieur. On chante, on ne chante pas pour chanter, mais pour louer le Seigneur. On a parlé du chant en langue, qui est un moyen aussi d'exprimer notre louange au Seigneur. C'est Paul qui dit « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi par l'intelligence. » Chantons en langue. Quand nous chantons en langue, nous sommes vivifiés par Dieu. Alors peut-être vous allez me dire « Mais je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter en langue. » Eh bien, vous vous laissez inspirer par le Seigneur. De même que pour le parler en langue, vous parlez, eh bien, pour chanter en langue, vous parlez en langue, mais au lieu de parler, vous chantez. C'est la même chose. J'ai fait une expérience comme ça depuis quelque temps. Je me suis mis à faire de la marche. Et j'aime pas du tout faire du sport. Alors comme ça m'ennuie de faire du sport, et qu'il faut bien qu'on s'entretienne quand même un peu physiquement, un minimum, donc je me suis discipliné pour faire de la marche régulièrement. Mais ça m'ennuie profondément de marcher. Alors pendant tout le temps de la marche, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer, comme ça, ça peut durer un certain temps, mais j'ai commencé à louer en langue. Et puis après, j'ai commencé à chanter en langue. Et puis maintenant, tout le long de la marche, je loue en langue, je chante en langue, et je ne vois pas le temps passer. Vous voyez, ça peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Eh bien, on loue le Seigneur. Alors, quand je croise quelqu'un, je diminue le volume, et puis après, ça repart. Et alors, on ne voit pas le temps passer. Louons le Seigneur en langue. Dans la voiture, quand on conduit, on peut mettre des CD de louange, louer le Seigneur. louons le Seigneur par des chants, louons le Seigneur en langue. Et vous savez, quand on loue le Seigneur en langue, on le chante en langue, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne comprend pas ce qu'on dit, mais on est vivifié à l'intérieur. Le parler en langue bien, permet de prier pour les sujets que Dieu nous inspire et aussi de nous fortifier intérieurement. Donc c'est quelque chose de bon. Prenons le temps de le faire, de le louer donc, en langue. Ça, c'était pour le chant en langue. On a parlé de la musique, différents instruments. On loue Dieu par la musique. Voilà, j'aimerais voir quelques autres aspects. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 19. Autre attitude extérieure, en se levant. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 19. Les Lévites, d'entre les fils des Cananites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent. Ils se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, Dieu d'Israël. On n'a pas le temps de lire, mais il y aurait aussi 1 Roi, chapitre 8, verset 14, ou psaume 88, verset 11. Pourquoi se lever pour louer le Seigneur ? Eh bien, d'abord pour exprimer notre respect, notre reconnaissance au Seigneur. Aussi pour exprimer notre engagement, parce que nous ne sommes pas des spectateurs, mais quand nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes tous des participants. Et le fait de se lever dans la présence de Dieu, eh bien, permet de signifier notre engagement ou notre consécration pour le Seigneur. Bien sûr, dans la plupart de nos églises, dans nos traditions d'église, habituellement, on chante assis, on loue assis. Mais il y a une forme d'expression où on peut se lever et louer le Seigneur. Et la Bible nous montre que quand la foule était saisie par le Seigneur, elle se levait et louait le Seigneur. C'est pourquoi vous avez la liberté de vous lever pour louer le Seigneur. Quelquefois, il y en a qui sont un petit peu fatigués et préfèrent s'asseoir, c'est la liberté. Mais si vous voulez vous tenir debout dans la présence de Dieu, vous avez cette liberté de vous lever et de louer le Seigneur. N'ayez pas la crainte de vous dire « qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me lève, si je m'assois ?» Peu importe, l'important c'est que vous soyez libre d'exprimer votre reconnaissance devant le Seigneur. Donc le peuple de Dieu se tenait debout pour adorer le Seigneur. J'ai remarqué aussi que lorsque l'on est debout, au moins pour chanter, on chante mieux debout que assis. Assis, ça a tendance à être un petit peu étouffé, mais lorsqu'on est debout, déjà on dégage nos poumons et on a plus de liberté aussi pour s'exprimer devant le Seigneur. Donc n'hésitez pas, levez-vous devant le Seigneur et louez-le de tout votre cœur. Autre aspect extérieur, psaume 63, verset 5, en levant les mains. Psaume 63, verset 5 nous dit « Je bénirai l'Éternel toute ma vie et j'élèverai mes mains en ton nom. » Vous avez aussi le psaume 28, verset 2, Néhémie chapitre 8, verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent, ils adorèrent l'Éternel, le visage. Donc le peuple de Dieu lève les mains pour adorer le Seigneur. Pourquoi ? D'abord en signe de reconnaissance, en signe de remerciement, on lève les mains vers Dieu. On lève les mains vers Dieu aussi en signe de victoire. Lorsque vous avez ce combat contre Amalek, le peuple était là dans la vallée. Moïse est monté sur la montagne, vous connaissez ce passage. Moïse est sur la montagne et il levait les bras vers l'Éternel. Tant que Moïse avait les bras levés, eh bien, il y avait la victoire du peuple de Dieu dans la vallée. À un moment donné, il lui était difficile de rester les bras levés, donc Aaron et Hur sont venus le soutenir et la victoire a été remportée. Donc on peut lever les mains vers l'Éternel aussi, en signe de reconnaissance, de victoire. Certains ne sont pas tout à fait à l'aise dans la maison de Dieu pour bouger parce qu'ils ont le sentiment que ce n'est pas tout à fait correct. En réalité, c'est de la timidité, c'est un manque d'extériorisation ou peut-être qu'on n'a pas appris à s'exprimer devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, ne soyons pas timides. Et quand on dit « levons les mains vers Dieu », levons-les vraiment parce que quelquefois, il y a les entre-deux. Il y a ceux qui ne lèvent pas du tout les mains, ils restent comme ça, et je lève les mains vers toi, donc ils chantent. Et puis il y a ceux qui disent, je lève les mains, mais c'est comme s'il y avait 10 kilos de chaque côté. Ils lèvent à peu près jusqu'ici. Il y a les moyens timides jusque-là, et puis ceux qui ne sont pas timides, et je lève les mains vers toi. Vous voyez ? On peut lever ses mains vers le Seigneur, et personne ne va vous reprendre. Ne soyons pas timides. C'est beau de voir le peuple de Dieu lever ses mains et le louer dans de tout son cœur, de toute son âme. Il n'y a rien de mal à cela. Donc, Paul le dit d'ailleurs dans 1 Timothée 2,8, « Levez les mains pures vers Dieu. prier pour tous les hommes en élevant des mains pures. Donc c'est ce que nous voulons faire quand nous venons le louer et l'adorer. Levons vraiment les mains vers le Seigneur. Un autre texte nous dit de taper des mains. Psaume 47, verset 2. « Vous tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Tapez des mains. Pourquoi est-ce que nous tapons des mains? Ben, pour exprimer notre joie devant le Seigneur. On tape des mains parce qu'on exprime sa joie, ça c'est une chose. Mais aussi pour acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tapez des mains. On peut acclamer le Seigneur par ce moyen-là. Certains ont du mal à taper des mains pour le Seigneur parce que ça les gêne. Moi, j'ai fait partie de ces gens-là à une époque. Ça me gênait un petit peu de taper des mains pour le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre que... Mais il n'y a rien de mal à taper des mains pour lui. D'ailleurs, c'est recommandé dans la parole. Vous tous les peuples, battez des mains. Et quelquefois, nous, on se fait des idées que ce n'est pas très poli de taper des mains dans la maison de Dieu. Mais... pendant des années, moi, j'écoutais les autres taper des mains, puis je n'osais pas taper des mains. Alors, au bout d'un moment, le Seigneur m'a montré, mais pourquoi toi, tu ne tapes pas des mains aussi, hein? Tu as la liberté, et le Seigneur te montre que tu peux taper des mains dans la maison de Dieu. Donc, on peut applaudir, acclamer le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas pour faire du bruit, pour se rendre intéressant si on tape des mains, ce n'est pas le but. Bon, parce qu'il y en a qui se disent, oh là là, oui, il y a du bruit ici, ils tapent des mains, ils font n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Taper des mains, c'est une manière d'exprimer notre louange pour le Seigneur. De même que quand on joue de la musique, de même que quand on chante, notre but, c'est pas de faire du bruit ou de taper des mains, notre but, c'est d'adorer le Seigneur. Et quand on le fait dans cet état d'esprit, ben c'est agréé de Dieu. Aussi, un autre point, quatrième point, comment le louer avec des danses. Psaume 149, verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Psaume 50, verset 4. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Pourquoi est-ce que nous louons Dieu avec des danses? Pour exprimer d'abord notre joie, un petit peu comme quand on tape des mains, on danse pour le Seigneur, c'est l'expression de tout notre cœur. Le peuple de Dieu dansait quand il y avait eu des victoires. Il y avait des danses pour célébrer les victoires. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu un sujet tabou, la danse. Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on ne peut pas danser? Pourquoi? Ben, parce que les seules fois où on parle de la danse, moi, la plupart des fois où j'ai entendu parler de la danse, et peut-être vous aussi, c'était pour la condamner et pour la critiquer, pour dire la danse, c'est pas bien. C'est vrai ou pas? Jamais on dit que la danse, c'est quelque chose de bon, ou ça peut être bon. Pourquoi? Parce que il faut le reconnaître, l'ennemi a utilisé beaucoup la danse pour entraîner des gens dans la débauche. C'est vrai. On voit que le diable, ben, par le moyen des discothèques, des danses, et puis il y a toutes sortes de danses qui sont charnelles, qui sont sensuelles, qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. C'est un aspect de la danse qui est négatif. Parce que peut-être on considère la danse comme un péché. Car tout ce qui est le fruit de l'expression du corps est bien souvent mal perçu. Parce que peut-être aussi, on n'a jamais appris à s'exprimer avec la danse dans notre culture. Je lisais un feuillet de l'Action missionnaire, je ne sais plus dans quel pays c'est d'Afrique, mais il est dit dans le feuillet de prier pour eux, il disait, ils se sont réunis, ils ont éclaté en louange, et ils exprimaient leur louange par des danses. Par des danses. Et nous, quelque part, on est un peu, entre guillemets, gênés, un petit peu coincés à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de s'exprimer par la danse. Pour ma part, la dernière fois que j'ai dansé, ça remonte loin, c'était le jour de mon mariage. C'était une valse. Et c'était pas très fameux. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai pas redansé. Mais si un jour, le Seigneur me saisit, comme il est dit ici, qu'il loue son nom avec des danses, et qu'il le louez-le avec le tambourin, et avec des danses. Et je remarque que la Bible ne parle pas mal de la danse. Puisque Dieu nous demande de le louer avec, et si c'était mal, est-ce que Dieu nous demanderait de le louer avec quelque chose de mal? Non. On a compris qu'il y a un aspect de la danse qui est mauvais, que le diable utilise, mais ce n'est pas cette danse-là dont il est question dans la parole. Il est question d'une danse qui honore Dieu. Donc il existe une forme de danse qui honore le Seigneur, et Dieu nous demande même de le louer au travers de cela, puisque la parole de Dieu nous encourage. Alors c'est sûr que pour nous, ça nous surprend, ça nous étonne. Vous savez que David, un jour, a été saisi comme ça par l'Esprit de Dieu, et il s'est mis à danser devant l'arche de l'Éternel, et la Bible dit qu'il dansait, il dansait, il dansait. C'est dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod et de lin. Ailleurs, un peu plus loin, c'est dit qu'il sautait et qu'il dansait devant l'Éternel. Et puis, vous aviez tout le peuple qui était rassemblé. Vous aviez des cris de joie, vous aviez la louange et vous aviez les sons des trompettes. Vous imaginez un petit peu la scène. Et David, qui était au milieu de cela, et qui dansait. Et puis, il y avait une autre personne qui s'appelle Michal et qui s'est dit, dis donc, ce David, il n'a pas honte de danser comme ça, devant tout le monde. Eh bien, c'était pourtant, David dans son cœur, c'était son moyen d'expression pour honorer Dieu. Et pour Michal, elle a jugé l'extérieur, elle a vu le côté négatif. On ne peut pas dire que David faisait les choses à moitié, parce qu'il est dit qu'il dansait de toute sa force devant l'Éternel. Ce n'était pas la danse du bout des pieds. Vous savez, des fois, nous, on bouge un petit peu. Déjà, c'est beaucoup pour nous. Mais David, il dansait de toute sa force. Donc, il était libéré de ce côté-là. Et je pense que quand on est saisi par l'Esprit, parce que là, c'est quand même particulier, il a été saisi par l'Esprit, il s'est mis à danser devant le Seigneur, eh bien, c'était une manière d'honorer Dieu. Et il a dit à sa femme qu'il a dansé devant l'Éternel pour honorer l'Éternel. Et ce n'était pas pour se rendre intéressant ou pour dire, voyez, je sais danser. Ce n'était pas le but. Le but, ce n'est pas de danser, mais c'est d'honorer l'Éternel et de le louer. Vous savez, certains... peut-être sont bloqués à ce niveau-là, au niveau de l'expression. Alors, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est qu'il nous faut comprendre qu'il y en a certains qui ont plus de liberté. Ceux qui ont davantage de liberté, eh bien, ils ont la possibilité de l'exprimer, mais il ne faut pas que ça soit une occasion de chute pour les plus faibles. Mais ceux qui n'ont pas cette liberté, il faut aussi avoir un état d'esprit ouvert pour accepter cette forme d'expression, puisqu'elle n'est pas condamnée formellement dans la parole, on l'a lu dans ces versets. Bien sûr, il y a une forme de danse qui est condamnée. Et ça, on le sait par les danses charnelles, les danses humaines qui sont faites dans le but de séduire, de provoquer, et des danses mondaines, on va dire, des danses du monde. Mais les danses qui sont faites pour la gloire de Dieu, eh bien, elles sont approuvées dans les Écritures. C'est une forme extérieure aussi d'adoration de louange. Ça peut-être, ça nous étonne, on n'est pas habitué, mais c'est un fait que l'Écriture, en tout cas, le permet. En plus de tout cela, Dieu nous demande de le louer avec joie. Esdras, chapitre 6, verset 22, ils le célébrèrent avec joie pendant 7 jours, pendant la fête des pains sans levain. 2 Chroniques 23, 18, psaume 30, verset 12, la joie est abondante dans la louange. Pourquoi est-ce que nous sommes joyeux quand nous venons louer le Seigneur? Parce que nous sommes heureux d'être enfants de Dieu. Parce que Christ a tout accompli pour nous, parce qu'on a la liberté de pouvoir se rassembler. Vous savez que dans bien des pays aujourd'hui, pour se rendre à un culte, ils prennent des risques, ils n'ont pas cette liberté. Donc nous pouvons être heureux d'avoir cette liberté. On est heureux parce qu'on est enfant de Dieu. Quand on vient au culte, on ne vient pas à un enterrement, on vient à une fête pour célébrer l'Éternel. On ne doit pas être triste, on ne doit pas être... dans la peine, mais on doit réaliser d'ailleurs, je disais on ne vient pas à un enterrement, on se rappelle que Christ est ressuscité. Il était au tombeau, les disciples ils étaient malheureux, n'arrivaient pas à louer le Seigneur. Mais quand Christ est ressuscité, qu'ils ont compris que Christ était ressuscité, ils ont mis du temps pour comprendre, eh bien là, la louange et l'adoration a jailli des cœurs. Voyez, quand nous venons dans l'assemblée, donc, rappelons-nous que nous venons pour fêter, célébrer Jésus, le ressuscité des morts. Et c'est une fête dans la maison de Dieu. Donc, on peut exprimer notre joie par des Alléluia, par des Amen, par des Gloire à Dieu. On a chanté, poussons des cris de joie. Eh bien, on peut le faire devant le Seigneur. Jésus, il est dit qu'il a tressailli de joie devant le Seigneur. À un moment donné, il voyait Satan tomber du ciel. Et il a éclaté en louange. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Donc, la louange nous fait tressaillir de joie. Amen. Vous êtes prêts à tressaillir de joie? Alléluia. Et puis, avec enthousiasme, un dernier aspect extérieur, psaume 66, verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Faites retentir sa louange. Eh bien ça, ça veut dire, frères et sœurs, que nous ne devons pas être timides quand nous venons louer et célébrer le Seigneur, mais que nous devons vraiment le louer avec toutes nos cordes vocales, de tout notre cœur, mais avec aussi la puissance dans notre voix. Faites retentir la louange, que dans ce quartier, ils entendent qu'il y a des hommes et des femmes qui louent le Seigneur, et de tout lieu, en tout lieu, partout où le peuple de Dieu se rassemble, eh bien, Dieu désire que jusqu'aux extrémités de la terre, sa louange ainsi retentisse. Alléluia. Donc quand on vient pour chanter, pour louer, pour exprimer notre connaissance, faites-le avec toute votre force, de tout votre cœur. Alors les formes d'expression, on les a vues, elles sont très variées. Le but, c'est toujours le même, de louer et d'adorer. Dieu accorde un grand intérêt à notre vie intérieure. J'ai parlé toute la première partie sur l'état de notre cœur, sur la manière dont nous devons être disposés pour louer le Seigneur, avoir cette soif. C'est très important pour Dieu. Vous savez qu'on peut être là en levant les mains vers Dieu, avoir tous les signes extérieurs de quelqu'un qui adore, mais d'avoir un cœur profondément éloigné du Seigneur. C'est facile de copier les autres et de faire comme tout le monde, de se lever, de louer, etc. Si notre cœur est éloigné de lui, on est à côté de la louange et de l'adoration. Donc l'attitude intérieure est quand même prioritaire. Et Dieu en tient compte. Bien sûr, il le voit. Ensuite, on voit la diversité des expressions, que ce soit le chant, la musique, louange en langue, les danses, le taper des mains, etc., etc. On voit une grande diversité. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas, n'est pas liturgique, mais il aime la variété, il aime la diversité. Il n'est pas, si vous voulez, religieux, comme nous avons parfois l'habitude de nous dire, voilà, on vient dans la maison de Dieu, donc on va faire comme ci, comme ça, et puis on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. On voit que la palette que Dieu nous propose pour exprimer notre louange est beaucoup plus variée que celle que nous exprimons, parce que nous avons restreint, nous limitons le Seigneur. Donc Dieu nous demande de louer Dieu dans la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, nous avons la liberté, nous sommes libérés du péché, de son pouvoir, nous sommes libérés de la peur, nous sommes libérés du joug de la loi, nous sommes libérés de la servitude, nous sommes libérés de la crainte du regard de l'autre, nous sommes libérés. Et c'est comme ça que nous devons louer le Seigneur, sans crainte de ce que l'un ou l'autre va dire. Une fois, quelqu'un me disait, oui, mais moi, j'ose pas me lever ou lever les mains, parce que qu'est-ce que les autres y vont dire de moi ? Est-ce qu'on a la crainte de ce que les autres vont penser de nous ? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être libéré de cela ? Pour apporter au Seigneur notre adoration. On est devant la face du Seigneur, on n'est pas venu faire une représentation devant des gens ici, on est venu pour adorer le Seigneur. On est tous enfants de Dieu. Et pourquoi on jugerait celui-ci ou celle-là ? Et si elle veut s'exprimer de cette manière, ben c'est Dieu qui le permet comme cela. Bien sûr, la Bible recommande que tout se fasse avec ordre et bienséance dans la maison de Dieu. Et nous devons veiller pour qu'il n'y ait pas d'excès non plus, de dérapage, si on peut dire. Mais ça, c'est les serviteurs qui sont là pour cela. Nous devons avoir cette liberté de louer le Seigneur selon son esprit, selon sa volonté. On va prier pour terminer en demandant au Seigneur toute sa grâce. Merci encore pour ta parole qui nous montre toutes ces possibilités que tu as pour nous, pour t'adorer, pour te louer. Et nous voulons te prier pour que nous allions encore plus loin, toujours plus loin, comme David l'exprime, te louer toujours de plus en plus, pour apprendre, Seigneur, à te louer comme tu le désires. Nous te prions pour nos frères, pour nos sœurs, afin que chacun puisse faire des progrès dans l'expression de sa louange, que nous réalisions vraiment ta présence. Ô Seigneur, nous voulons nous tenir sous ton regard ce matin, te prier d'encourager celui qui est peut-être venu chargé, fatigué, qui a besoin de réconfort, de bénir celui ou celle aussi qui veut progresser dans les dons spirituels, qui veut recevoir des paroles de ta part. Ô Seigneur, nous te confions la vie de chacun. Nous voulons être ses adorateurs en esprit, en vérité. Seigneur, libère, Seigneur, tous ceux qui sont venus avec des chaînes, tous ceux qui sont venus avec cette crainte du qu'en dira-t-on, du regard des autres, qui sont timorés, timides. Seigneur, je te prie de les libérer, pour qu'ils puissent aussi t'apporter la louange et la reconnaissance sans crainte, et qu'ils puissent élever les mains, se tenir debout dans ta présence, glorifier ton nom sans gêne de ce que tel ou tel pourrait penser. Seigneur, nous sommes tous tes enfants, nous sommes tous à tes pieds, et c'est toi que nous venons rencontrer, c'est ton nom que nous venons célébrer. Gloire, honneur et victoire à ton Saint-Nom. Amen.